Bientôt 15h04, on retrouve là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour Daniel, eh bien je me suis encore fait baiser, on est vendredi à 15h, il n'y a pas là-bas si j'y suis. Alors voilà, je voulais juste demander au nouveau directeur de Radio France, dont le nom m'échappe. On a l'impression qu'il est sorti de la cuisse de Jupiter, mais c'est sûr que c'est quelqu'un de bien. Alors je lui demande, s'il vous plaît, je veux 2 heures de Mermet par jour, et 7 jours sur 7, c'est une question de santé. Voilà, à bientôt.
Salut les AMG, salut Daniel. Ouais, c'est un petit mot de mon taxi pour te dire que je te remercie de cette émission. C'était vraiment joli, un bel hommage à Paco de Lucia. Je vais transmettre direct cette émission à mon primo de Cadiz, qui est un guitariste flamenco et qui ne manquera pas d'être ému lui non plus. Voilà, merci Daniel pour ces émissions et on te suit toujours. Voilà, c'était Estelle de Salles.
Salut à tous, bonjour à toi Daniel. Bah écoute, absolument pas mélomane, par contre j'ai écouté ta petite émission de jeudi et ça m'a fait rêver tout seul dans ma voiture. Donc merci, merci beaucoup pour cette tranche de flamenco que je n'oublierai pas et je vais m'unir au plus vite de cette musique. Merci encore, salut.
Oui, bonjour Daniel et son équipe, c'est Anya en Ardèche. Je viens de suivre ton émission en hommage à Paco de Lucia, un régal. Merci mille fois. Du coup, j'ai sorti mes chaussures spéciales flamenco, cloutées bien sûr, et j'ai vibré très fort en dansant dans ma cuisine. J'ai 72 ans et danse depuis toujours. Continue Daniel, si ton émission n'existait pas, il faudrait l'inventer. Au revoir à tous.
Je pleure de bonheur, d'amour. Paco de Lucia, merci. Cette dernière musique de cette émission, c'est comme un acte d'amour réussi, comme une prière. C'est magnifique. Quel génie. Au ciel, tu dois réjouir tous les anges. Bravo.
1er mars 1954, il y a tout juste 60 ans, des prêtres ouvriers ont été sommés par Rome de quitter les usines, les lieux où ils étaient engagés dans les luttes avec leurs camarades. Certains d'entre eux, en fidélité à leur conscience, ont refusé ce diktat. On les a appelés les insoumis. L'obéissance pour eux n'allait pas du côté de l'Église, mais de cette classe ouvrière qu'ils avaient choisie. Ils ont tourné définitivement le dos à une attitude paternaliste et caritative pour choisir la justice. Ils sont devenus des hommes dans le choix de la lutte des classes. Dans un contexte de guerre froide, où le communisme était menaçant pour l'Occident capitaliste, l'Église avait fait son choix, ils ont fait le leur. Aujourd'hui, on veut effacer par tous les moyens la notion de lutte des classes. Ce serait dommage que, là-bas si j'y suis, ne leur consacre pas une émission. Tant de choses dans leur parcours sont à puiser pour nos luttes d'aujourd'hui. Merci de faire mémoire d'eux. Thérèse et Monique de Vénissieux et de Saint-Étienne.
Imaginez 28 bergers complètement naïfs ou irresponsables qui confient leur troupeau de brebis à la garde d'un grand méchant loup et vous aurez une idée de ce qu'est le grand marché transatlantique qui se concocte en grand secret entre les USA et l'Union européenne. Pour moi, c'est l'équivalent de Munich qui se prépare. Honte donc à nos députés qui n'en pipent pas mot à la tribune ou dans les médias. Salut les copains.
Eh bien, on va en parler de ça. On va en parler du traité transatlantique à nouveau aujourd'hui avec Serge Halimi qui a fait son édito là-dessus dans le numéro du Monde diplomatique de ce mois de mars, puisqu'on se retrouve comme chaque mois avec l'équipe du Diplo pour faire un petit tour d'horizon sur certains sujets. On parlera des fondations. Qu'est-ce que c'est que les fondations? Comment ça fonctionne? Fondations reconnues d'utilité publique. Bien sûr, on va parler de l'Ukraine. Et puis, on va parler de l'extrême droite en France, et pas seulement en France, en Europe. L'extrême droite progresse. Et il y a, vis-à-vis de cela, deux attitudes. Il y a celle qui consiste à paniquer, à hurler au fascisme, et puis il y a l'autre qui consiste, et ce que nous faisons depuis longtemps, à comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche, même si ça a une utilité limitée, notre travail, parce que finalement, l'extrême droite progresse. Je voulais vous donner des nouvelles aussi des anciennes salariées de Samsonite, de Rouvroy, qui partent pour Boston, vous vous souvenez, et je vous avais demandé de les soutenir pour qu'elles puissent aller là-bas. Et ben ça a très très bien marché, figurez-vous. Vous êtes formidables, comme disait Pierre Belmar autrefois. Vous leur permettez de partir beaucoup plus nombreux et nombreuses que prévu. On vous donnera des nouvelles au fur et à mesure, on les appellera au cours de leur périple. À Boston, au tribunal de Boston, elles vont là-bas hein, plaider. Enfin, c'est un avocat. Elles ont leur avocat français, mais c'est un avocat américain qui va plaider ces ouvrières, donc, de licenciés de Samsonite, qui luttent contre Bain Capital, le grand méchant fonds d'investissement qui, selon elles, est la cause de leur de ce plan social, comme on dit. Honteusement. Et je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit cette auditrice au sujet des prêtres ouvriers. Elle a bien raison. Il faut qu'on fasse un sujet là-dessus. C'est vrai que c'est des gens qu'on oublie tout à fait et qui ont été remarquables dans l'histoire sociale de notre pays. Pas seulement social, j'hésitais parce que c'est pas seulement social, c'est politique aussi. Ils ont été tout à fait exemplaires dans les années qui ont précédé la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, les réseaux Janson notamment étaient animés en partie par cette sensibilité à la fois politique et engagé de l'Église catholique en conflit avec sa direction vaticane, on va dire. C'est un sujet très intéressant. Voilà, on en parlera bientôt. Donc aujourd'hui, c'est le diplôme. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Quand je pense qu'il y a de mauvaises langues qui disent que si le Figaro, le seul média en France à ne pas parler de l'affaire Dassault, c'est parce qu'il appartient à Dassault Média, dont le président directeur général est Serge Dassault, les administrateurs Nicole Dassault, Olivier Dassault et Thierry Dassault, et que la société du Figaro est présidée par Serge Dassault. Ah, il y a vraiment des mesquins en ce bas monde.
Bonjour, jeudi 9 mars à 19h, Café Repère dans les Alpes-Maritimes, au bar chez Sabine, 38 chemin de l'Orme, au plan de grâce. Le thème du mois, un peu provocateur et d'actualité, a-t-on encore besoin des élus? C'était Brigitte de Montsartou.
Bonjour à tous les AMG. Le Repère du Sel en Haute-Corrèze organise le mercredi 5 mars un débat à l'occasion de la Journée internationale des femmes. On y parlera du viol en tant qu'arme de guerre et de l'évolution du droit des femmes. Si leur statut s'est amélioré depuis 50 ans, de graves inégalités persistent dans le domaine des salaires, de la représentativité et bien d'autres. Le viol dans les conflits armés est utilisé depuis la nuit des temps et ne connaît pas d'accalmie. Rendez-vous à 18h30 au bar Le Troubadour, place de la République, au premier étage. Venez nombreux, on vous attend.
Le Calendos. Comme je voulais rendre un hommage à un humain de premier choix, je cherchais dans mon entourage une princesse, il n'y en avait pas, un général, un fonctionnaire qui aurait été toujours à l'heure, mais que dalle, une vraie misère, personne à qui lancer des fleurs. Je n'étais pas du genre à mettre un dithyrambe au rebut, un compliment par la fenêtre, une louange au clou non plus. Il me fallait une poitrine pour accrocher ma dévotion lorsque je vis dans ma cuisine le prince, le roi des frometons. Pilier de nos repas virils, dénouement des boucs entre potes, écarté des dîners en ville mais au chantier droit dans ses bottes. Le camembert est sans nul doute avec son copain le pinard, du casse-croûte la clé de voûte, la perle rare du terroir, car il a l'odeur de la France et du midi au Calvados, même sur du pain dur, du beurre rance, nous l'aimons, notre Calendos. C'était le poète un peu fait. Salut.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from...
Et nous voilà avec le diplôme du mois de mars. Et on va tout de suite attaquer Serge Halimi. Serge Halimi qui lui-même s'en prend à l'APT, à l'accord de partenariat transatlantique. Et c'est pas mal cet accord de partenariat transatlantique, mon cher Serge, parce que ça nous rajeunit. Et ça nous rappelle l'ami, le petit ami de 1998, l'accord multilatéral sur l'investissement contre
lequel un certain nombre s'était mobilisé et qui a été retiré. L'ami a été retiré et on avait comparé ça évidemment à Dracula, hein, qui, une fois qu'il est mis en lumière, eh bien disparaît. Alors est-ce que ça va être la même chose avec l'APT ? Mais en tout cas, vous faites partie de ceux qui sont pas vraiment favorables, il faut bien dire les choses.
Non, pas vraiment. Vous dites mise en lumière parce qu'il est vrai que ce traité a été négocié dans le secret, à vrai dire par la Commission européenne, parce que ce ne sont pas les États membres de l'Union qui négocient, mais la Commission européenne qui négocie en leur nom à tous. Et ce traité devra être ratifié par le Parlement européen qui sera élu en mai. La France, qui semblait, lorsque François Hollande faisait campagne, être plutôt réservée à l'endroit de ce traité, paraît avoir changé de position, puisque lors de sa visite d'État à Washington le 11 février dernier, François Hollande a proposé d'accélérer la cadence et qu'il a expliqué, je le cite, « Nous avons tout à gagner à aller vite, sinon nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peurs, de menaces, de crispations ». Donc cette idée d'aller vite pour en quelque sorte devancer l'opposition qui est en train de naître et de se généraliser. Dans les années 90, à la suite de la chute du mur de Berlin, de ce que certains ont alors appelé la réunification du monde, la fin de l'histoire, la conviction s'est installée aux États-Unis comme en Europe que le développement économique et social réclamait la multiplication des échanges internationaux. Et ça a été l'idée des libéraux, de droite comme de gauche. Et ces traités de libre-échange ont souvent été impulsés par des libéraux de gauche, Clinton, Blair, Pascal Lamy, à l'échelle de l'Europe. C'est une idée un peu naïve.
Je veux dire que le mot gauche n'est pas un peu abusif.
Bon, un peu abusif, mais c'est le terme d'usage qu'après chacun décodera en fonction de ses préférences et de ses choix électoraux. Donc cette idée que le commerce, en quelque sorte, permettrait de résoudre tous les problèmes économiques et sociaux. Et c'est une idée qui est exprimée par Bill Clinton un mois après qu'il entre à la Maison-Blanche, en février 1993, lorsqu'il prononce un grand discours-programme sur le libre-échange. Et dans ce discours, il dit ceci, « La vérité de notre époque est que l'ouverture et le commerce nous enrichiront en tant que nation. Cela nous incite à innover, cela nous oblige à affronter la concurrence, cela nous assure de nouveaux clients. » Cela favorise la croissance globale, sans laquelle aucun pays riche ne peut espérer s'enrichir. Les habitudes du commerce contredisent celles de la guerre. Tout comme les voisins qui se sont entraidés pour construire leurs étables respectives sont ensuite moins tentés d'y mettre le feu, ceux qui ont élevé leur niveau de vie mutuel sont moins susceptibles de s'affronter. Si nous croyons à la démocratie, nous devons donc nous employer à renforcer les liens du commerce. » Fin de citation. Il faut rappeler qu'au moment même où Clinton tient ce discours, la pratique américaine est sensiblement différente, puisque les États-Unis imposent un certain nombre de sanctions commerciales ou d'embargos à des États dont ils désapprouvent tantôt l'orientation politique, tantôt l'absence de liberté religieuse. Et c'est quelques années plus tard, à peine, que Clinton signe par exemple la loi Helms-Burton, qui durcit les sanctions commerciales contre Cuba, mais aussi contre tous les États qui, je cite, font du trafic avec l'île. C'est-à-dire qui commercent avec Cuba, peut-être pour apporter à l'île richesse, innovation, paix et démocratie. C'est donc la preuve que les États-Unis ne croient pas tout à fait à leur discours libre-échangiste. D'ailleurs, à la fin du premier mandat de Clinton, les États-Unis appliquent 61 mesures d'embargo commercial ou de blocus qui concernent 26 pays et, à l'époque, plus de la moitié de la population mondiale. En tout cas, le discours libre-échangiste, on le retrouve aussi en Europe. 10 ans après le discours de Clinton, le commissaire européen Pascal Lamy, qui est un socialiste français, un proche de François Hollande, j'ai même vu qu'on en parlait comme d'un possible prochain Premier ministre, et qui était, il y a quelques mois encore, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, lui, donc, à l'époque, 10 ans après Clinton, donc en 2003, répète le catéchisme habituel. Il déclare « Je pense, pour des raisons historiques, économiques, politiques, que l'ouverture des échanges va dans le sens du progrès de l'humanité, que l'on a provoqué moins de malheurs et de conflits quand on a ouvert les échanges que quand on les a fermés. Là où le commerce se passe, les armes s'arrêtent. Montesquieu l'a dit mieux que moi. » Fin de citation. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y a même cette théorie qui veut que deux pays qui ont des McDonald's ne se font pas la guerre. Donc cette idée que effectivement le commerce empêche les pays de se combattre.
Bon. Ils sont très forts, ces gars-là. Hein. Une bonne formule.
Ils ont des bonnes formules et puis des images qui ont l'air assez apaisantes, qui font des promesses qui sont mirifiques. Et puis on ne leur demande jamais après ce qu'elles sont devenues, puisque à l'époque où le marché unique a été mis en place, on annonce que le marché unique créera 6 millions d'emplois. L'année suivante, il y a 4 millions d'emplois qui sont perdus. Bon, c'est toujours un peu la même affaire. C'est maintenant le pacte avec le patronat et le MEDEF qui promet 1 million d'emplois qu'on ne verra sans doute pas davantage que les promesses précédentes.
C'est pas en matière d'accord de libre-échange qu'on n'étudie pas un peu plus les effets de l'ALENA.
Oui.
Parce que c'était il y a 20 ans, l'ALENA. Et les résultats, si on est mexicain, c'est pas tout à fait formidable.
C'est-à-dire qu'on fait toujours les mêmes séries de calculs. On comptabilise l'emploi qui est créé grâce aux exportations, mais on ne comptabilise jamais les emplois qui sont perdus à cause des importations. On ne parle pas de la monnaie, qui bien davantage que les restrictions douanières affectent le commerce international. Là, en ce moment, si vous voulez, on négocie cet accord de libre-échange en nous disant qu'il va créer des tas d'emplois, alors même que Montebourg, qui est quand même le ministre du redressement productif, vient de relever qu'à cause de l'euro, qui s'est apprécié de plus de 10% face au dollar et de plus de 40% face au yen, l'Europe est dans une situation déprimée où sa conjoncture est très mauvaise. Le taux de croissance cumulé, c'est lui-même qui le dit, a été de 3,4% aux États-Unis, de 2,3% au Japon et de moins 0,2% dans la zone euro. Et il explique, nous avons la zone la plus dépressive au monde et la monnaie qui s'apprécie le plus au monde. Cette situation est ubuesque. Nos efforts historiques de baisse du coût du travail sont en ce moment dévorés par les 10% d'appréciation de l'euro. Donc alors même qu'on négocie ces accords de libre-échange, vous avez des ministres qui reconnaissent qu'il y a des facteurs qui dépriment l'activité et qui, au lieu de créer des emplois, en détruisent. Et ces facteurs-là sont des facteurs monétaires sur lesquels le gouvernement français n'a aucune prise. En d'autres termes, depuis une vingtaine d'années, vous avez ces promesses libre-échangistes qui sont répétées et qui débouchent d'ailleurs souvent sur des accords de libre-échange. On a eu le traité de Maastricht en 1992, on a eu le traité de l'ALENA que vous évoquiez l'année suivante, et puis à partir de 1995, vous avez eu les rounds de libéralisation du GATT et de l'OMC, qui ont fait passer les droits de douane, d'ailleurs, à un niveau qui est maintenant très faible, puisque lorsque les négociations du GATT ont démarré en 1947, au lendemain de la guerre, les droits de douane étaient en moyenne de 45%, et là, ils étaient, à l'issue de l'Uruguay Round en 1993, de 3,7%. Donc on négocie pour réduire des droits de douane qui, de fait, sont très faibles. Et la vérité, c'est que ce ne sont plus les droits de douane qui sont en cause, mais, comme l'a expliqué Raoul Marc Génard, les normes. Les lois qui ont été prises par un certain nombre d'États pour à titre de protection alimentaire, à titre de protection sanitaire, les lois sociales qui sont mises en cause par des multinationales qui voient dans ces lois sociales des entraves à leur développement commercial. Et c'est ça qui est en cause dans les négociations entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il est nécessaire à la fois de porter cette question à la connaissance du public et aussi de s'opposer à cet accord pour obtenir le même résultat que celui qui a été obtenu il y a 15 ans à propos de l'accord multilatéral sur les investissements, l'AMI, c'est-à-dire la remise en cause de cet accord
et son retrait.
Je suis pour qu'il y ait une négociation qui s'ouvre, pour lutter contre un certain nombre de freins aux échanges, de façon à favoriser la croissance.
La croissance.
Entre la richesse qui pousse et le pays qui crève, pourquoi culpabiliser? À part l'argent, il n'y a plus guère que les rêves. Comme toujours, la mafia plastronne, elle est devenue libéral Capone. Même à gauche, les notables disent que c'est incontournable. Alors n'écoutons pas tous ces mensonges, vite bougeons avant que notre monde plonge.
On continue avec le diplôme de Mars et on va évoquer Mathilde Goanec, les fondations. On va parler des fondations avec vous, puis on parlera aussi un peu de l'Ukraine si vous voulez, parce que c'est un domaine dans lequel vous travaillez. Mais je voudrais vous interroger sur les fondations. Est-ce que vous connaissez Monsieur Frick, qui faisait partie des barons voleurs? Mais Monsieur Frick, c'était le champion de la sidérurgie, une des plus grosses fortunes de l'histoire des États-Unis. Et Monsieur Frick disait, j'ai les moyens d'acheter la moitié de la classe ouvrière américaine pour qu'elle aille détruire l'autre partie de la classe ouvrière américaine. Donc il était un peu, voilà, un baron voleur. Mais aujourd'hui, Monsieur Frick est plus connu pour la fondation Frick. Il a un des plus beaux musées à Manhattan. Et c'est un grand collectionneur d'art, les plus beaux Rembrandt, les plus beaux Watteau sont dans sa fondation. Alors, on se dit, ben voilà, bon, il a été un peu rude dans sa jeunesse, mais après il s'est amendé et il est devenu un grand bienfaiteur de l'humanité. Et ça, c'est le principe des fondations, qui permettent à Monsieur Frick, au lieu de donner son argent au trésor public, il le donne à des fondations, ce qui est un placement formidable pour lui, parce que rien ne rapporte plus que l'art, c'est un très beau placement. Et d'autre part, évidemment, ça lui donne une image absolument formidable de mécène et de bienfaiteur de l'humanité. Ce préambule pour vous demander si c'est la même chose en France.
Je crois pas encore et pas tout à fait. Les fondations en France sont encore regardées parfois d'un mauvais œil parce que justement s'oppose une tradition en France en tout cas où on fait plus confiance qu'aux États-Unis, je pense au rôle de l'État. Mais c'est en train de changer et c'est pour ça que ces fondations reconnues d'utilité publique dont je parle dans le papier sont en pleine expansion et ont été en pleine expansion grâce à des lois favorables à la fois sous la droite et à la fois sous la gauche où on a reconnu au fur et à mesure du temps l'importance du mécénat, mais pas seulement dans le domaine culturel que vous évoquiez, l'art, etc., mais aussi dans des domaines comme l'éducation, la politique, la santé, enfin des domaines qui pourraient s'apparenter à des activités purement étatiques, notamment l'éducation et la santé, et l'action sociale, qui est aussi un domaine, un secteur où les fondations ont de plus en plus d'importance. Donc voilà, je pense pas qu'on est dans la même dimension, dans la même échelle.
On en prend le chemin.
Mais on en prend le chemin si on n'y prend pas garde. Sous des atours que vous évoquiez de faire le bien de l'humanité, c'est-à-dire permettre la pluralité, permettre à chacun d'avoir accès à l'art, à la santé, à l'éducation, etc. Sous des motifs qui sont plutôt positifs quand on les énonce juste comme tels. Mais la réalité est un peu différente.
Alors comment ça fonctionne ici ?
Donc en France, en tout cas pour les fondations reconnues d'utilité publique, il est possible pour les particuliers, les entreprises et notamment les personnes assujetties à l'ISF, à l'imposition sur la fortune, de verser une somme à des fondations reconnues d'utilité publique, donc il y a eu un label qui a été décerné par le ministère de l'Intérieur et ce don va être défiscalisé à 66% ou à 75% pour les personnes qui payent l'ISF.
C'est-à-dire que c'est, au lieu de payer mon ISF au trésor public, je peux désormais le verser à une fondation.
Pas tout votre ISF, mais en tout cas une partie, oui, de votre ISF, vous pouvez le défiscaliser par le biais des fondations reconnues d'utilité publique. Et donc, c'est pour ça que je parle d'une tendance aussi défendue par les libéraux, parce que c'est... Je ne veux pas que mon argent serve aille à l'impôt et je ne veux pas que mon argent aille à un État que je juge mauvais gestionnaire.
Et à n'importe quoi.
Et qui va le mettre dans n'importe quoi. Et surtout dans des choses auxquelles je ne crois pas. D'accord. L'hôpital public, l'éducation publique, voilà. Donc je préfère l'affecter à des causes qui me sont chères, comme l'école privée, dont je parle dans le papier, mais comme, par exemple, l'action pour les handicapés...
Le secours populaire, l'abbé Pierre...
C'est pas illégitime en soi de vouloir faire des dons et de vouloir donner son argent au secours populaire ou au Resto du Cœur, effectivement. Ce qui pose problème, et c'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est que ça touche à des domaines où, normalement, l'État est régalien et on le dépèce de cette manière-là. C'est-à-dire, en permettant, dans le cas de l'école, à une école hors contrat, donc en dehors de l'éducation nationale et même en dehors de l'école privée sous contrat avec l'État, quand on permet à ces gens-là de financer cette école-là hors contrat par le biais de dons défiscalisés, en fait, l'État subventionne un domaine qui, normalement, qu'il ne subventionne pas. Si vous êtes libre de ne pas mettre votre enfant à l'école publique, ou même à l'école privée sous contrat, c'est votre choix. Mais dans ce cas-là, vous en assumez le financement. Or, on le finance de manière détournée par une niche fiscale.
C'est ça. Donc ça revient à concurrencer les missions de l'État.
C'est, en tout cas, c'est une question qui peut être posée. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que la députée socialiste Michèle Delaunay l'avait posée, cette question, au moment où on discutait du rabotement des niches fiscales. Elle avait dit, comment est-ce qu'on finance, pourquoi est-ce qu'on permet à des particuliers de financer l'école hors contrat via des fondations, alors que ce sont normalement des domaines que l'on doit défendre, on défend l'école publique. Il s'avère qu'elle n'a pas été écoutée et que même elle a changé de point de vue puisqu'elle n'a pas défendu ça par la suite. Et que le gouvernement socialiste actuel ne défend plus ces positions-là. Enfin, pourquoi ? Parce que, notamment dans le cas de l'éducation, la défense d'une école hors contrat en dehors de l'éducation nationale qui serait malade, inefficace, inefficiente, est quelque chose aussi que l'on entend maintenant dans les sphères socialistes, dans les sphères de la gauche.
Ça pourrait être un très bon financement pour une radio de service public. Je pense à une radio publique dans laquelle je travaille depuis pas mal d'années. Ça pourrait être une forme de financement par des fondations, par des dons.
Malheureusement, je ne suis pas sûre que les gens qui payent l'ISF vont en premier lieu financer une radio publique. Je
ne
suis pas sûre.
Ah bon ?
Je pense qu'ils auront d'autres envies.
Offrez donc un cadeau à un vieux clodo. Invitez un troufion pour le réveillon. Donnez vos vieux vêtements à une grand-maman et vos jouets cassés au petit délaissé. Pensez donc pour les fêtes à faire un petit geste. La concierge, les boueurs et puis les bonnes sœurs. Le gala de bienfaisance sur le bateau de plaisance. Le bal des années folles pour les boat people. Ma chère, je vous invite. Samedi en 8, on bridgera un peu pour les malheureux. Et tous les traînes misères des deux hémisphères nous diront grand merci, messieurs les nantis. L'essentiel dans la vie, vous l'avez compris, c'est d'être du bon côté de la charité.
Des militaires ukrainiens bloqués dans leurs casernes et sommés de rendre leurs armes.
Euronews.
Ces gardes-côtes sont sous la menace d'un millier de soldats aux uniformes qui n'ont pas d'insigne, mais dont tout indique qu'ils agissent au nom de Moscou.
2 mars 2014.
Nous sommes en Crimée et la démonstration de force de la Russie est claire. Sur le terrain, la péninsule ukrainienne semble progressivement glisser sous le contrôle russe. Au lendemain du feu vert du Parlement russe à une intervention militaire en Ukraine, Kiev a annoncé le rappel de ses réservistes et fermé son espace aérien à tout appareil non civil. Pour le Premier ministre ukrainien, Moscou a d'ores et déjà déclaré la guerre. Les pays occidentaux, eux, veulent croire à une issue diplomatique. Ils multiplient les mises en garde à Moscou. La France et le Royaume-Uni ont notamment suspendu leur participation aux préparatifs du G8 prévus en juin à Sochi.
On continue avec vous, la Mathilde Goanec. Il y a un papier sur l'Ukraine dans le monde diplomatique, sur l'extrême droite. Je sais que vous avez travaillé sur ce domaine. On est dans l'actualité la plus chaude. On ne sait pas très bien comment les choses vont évidemment évoluer avec la présence russe en Crimée, là aujourd'hui, à l'heure où on parle. Quel est votre point de vue sur ce qui se passe, l'évolution des choses ?
C'est important de dire aujourd'hui que ce qui s'est passé à Kiev et à Maïdan, effectivement, c'est un mouvement composite où l'extrême droite a joué un rôle, notamment parce que c'est une extrême droite qui est en montée en puissance et qui a une organisation paramilitaire qui lui permet d'intervenir dans ce type d'événement.
C'est pas comme ça que les choses nous ont été présentées.
Mais néanmoins... Effectivement, non, tout à fait. Il y a eu un deux poids, deux mesures. On en a peu parlé au début. Oleg Tchanibok, qui est le leader de Svoboda, qui était un des trois leaders de l'opposition, on a très peu évoqué son orientation politique. Donc c'est une erreur, à mon avis, parce que ça fausse la suite des événements. Ce qui se passe en ce moment en Crimée, c'est quand même une région autonome, avec un statut autonome, mais qui fait partie des frontières de l'Ukraine. Donc soit on dit que les frontières, ça n'a pas d'importance, et que la Russie est dans son espace géographique de référence, et qu'elle peut aller là où bon lui semble, comme ce qu'elle a fait en Géorgie. Soit on respecte quand même un peu les frontières internationales et ce qui a été établi, en tout cas dans le cadre de l'Ukraine. Donc je suis d'accord et au courant et au fait du fait que l'Ukraine, c'est vrai, se trouve au milieu entre la Russie et une Union européenne alliée avec les États-Unis. Et l'Union européenne et les États-Unis ont des ambitions, c'est sûr, pour l'Ukraine. Ils ont des ambitions commerciales, voudraient en faire un espace économique commun, sans vouloir l'intégration, c'est là toute l'ambiguïté aussi de la position européenne, et voudraient que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ce qui déplaît fortement à la Russie. Je ne pense pas que ça soit un motif suffisant pour la Russie pour décider d'envahir la Crimée et de décider comme ça, du jour au lendemain, que la Crimée redeviendra russe. Sans oublier qu'en Crimée...
Redeviendra russe, elle l'est quand même très largement,
la Crimée. Elle est peuplée de russophones, mais elle est aussi peuplée d'Ukrainiens et elle est aussi peuplée de Tatars, dont on parle très peu.
Deux mots des Tatars.
Des Tatars qui sont une population qui a été déportée par Staline, qui vivait en Crimée, qui a été déportée par Staline et qui est finalement revenue en Crimée,
comme tout le Nord-Caucase,
grâce à l'Ukraine, grâce à un gouvernement ukrainien qui leur a permis de revenir, ces Tatars-là ne se sentent absolument pas russes et ne veulent pas revenir sous le giron russe.
Pour des raisons qu'on comprend.
Pour des raisons qu'on comprend. Parce qu'aussi, le gouvernement ukrainien a défendu la langue tatare. C'est aussi un aspect... les langues minoritaires se sont défendues entre elles. Puisque je rappelle que l'ukrainien n'est pas parlé encore majoritairement en Ukraine. Mmh. Voilà. Même s'il y a les langues officielles. Donc, les Tatars sont aussi légitimes de réclamer la protection et le fait de rester en Ukraine. De même que les Ukrainiens qui ne sont pas forcément russophones. Donc c'est une question compliquée. Je comprends que les Ukrainiens russophones de Crimée et de l'Est de l'Ukraine se sentent menacés par ce qui se passe à Kiev, mais ce n'est pas, à mon avis, un motif suffisant pour une annexion de la Crimée.
Serge Limi ?
Oui, moi je suis d'accord pour dire que de toute façon la partition serait une très mauvaise solution et qu'on n'a aucun intérêt à encourager en Europe ou ailleurs l'éclatement des États en fonction de distinctions ethniques, nationales ou religieuses. Chacun se souvient de ce que ce genre de calcul a provoqué en ex-Yougoslavie. Ceci dit, à propos de l'Ukraine, je veux juste confirmer là ce qui vient d'être dit. Effectivement, la question de l'extrême droite que nous évoquons, nous l'évoquons pas du tout parce que nous voudrions résumer à l'extrême droite le mouvement ukrainien auquel on vient d'assister. C'est effectivement un mouvement très hétéroclite, mais qui comporte une composante d'extrême droite qui a été assez largement occultée dans les médias. Et il me semble que l'occulter, c'est déjà le signe de quelque chose, d'une malhonnêteté intellectuelle.
D'une position idéologique.
Une position idéologique. Et Bernard
Henri Lévy, d'une malhonnêteté intellectuelle.
Et Bernard-Henri Lévy, qui voit des nazis partout, a, à propos de l'Ukraine, déclaré « Je n'ai pas vu de nazis, je n'ai pas entendu d'antisémites ». Bon, je ne sais pas où il était, mais il ne devait pas être très attentif. Et on sait que l'histoire de l'Ukraine inclut le massacre de masse des Juifs près de Kiev au moment de l'invasion nazie.
Babilla.
Un massacre qui a été conduit avec le soutien de nazis ukrainiens. Donc il n'est pas interdit de rappeler ce genre de choses. Il n'est pas interdit non plus de poser la question de la sécurité russe. Bon, pour les Russes et pas seulement pour Poutine, il ne saurait être question qu'un pays qui, il y a 20 ans, faisait partie de l'URSS, risque de devenir un État hostile qui pourrait devenir un nouveau membre de l'OTAN. Au passage, la Russie serait moins inquiète d'être encerclée si l'OTAN avait été dissous, comme ça aurait été logique à la chute du mur de Berlin. Au lieu de ça, des États qui faisaient partie du pacte de Varsovie, comme les États baltes, ont rejoint l'OTAN. On avait promis le contraire à Moscou au moment de la chute du mur de Berlin. Et je remarque que la diplomatie française dans cette affaire ne s'est pas honorée. Autrefois, elle servait en quelque sorte de pont entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Et là, on a l'impression qu'elle est sur des positions ultra, alors que c'est plutôt l'Allemagne qui cherche à jouer en quelque sorte les négociateurs, les go-between.
Mais c'est pas les mêmes rapports. C'est pas les mêmes rapports de force économiques.
Oui, mais il n'y a pas que les relations économiques qui déterminent la diplomatie. Il y a aussi il y a aussi des liens très anciens entre la France et la Russie, entre la France et l'Union soviétique d'ailleurs, entre De Gaulle et l'Union soviétique, De Gaulle et Khrouchtchev, Giscard et Brejnev. Bon, et là, on a l'impression qu'il y a une espèce de présentation vraiment très sinistre de Poutine, qui est forcément le méchant en tout, et je ne conteste pas qu'il le soit sur bien des sujets, mais sur d'autres, il défend les intérêts nationaux russes. C'est ce qu'on attend d'un chef d'État russe. Et quand un chef d'État américain défend les intérêts nationaux américains et que, par exemple, en 1962, il se formalisait de l'installation de missiles à Cuba, on a tous compris, enfin, en Europe, en Occident, la réaction de Kennedy a été comprise. Là, dans le cas de Poutine, qui ne veut pas qu'à ses frontières s'installe un État hostile, on a l'impression que sa réaction est purement paranoïaque. Et l'autre question qu'il faut aussi évoquer, mais celle-là, je pense qu'elle a été un petit peu traitée, c'est que en Ukraine, il y a une population urbaine qui clame son attachement à l'Europe, et puis sa volonté de se débarrasser des oligarques pour des raisons tout à fait compréhensibles. Mais il y a aussi une autre population qui est plus rurale, plus industrielle, qui, dans le même pays, clame son attachement à la Russie, à laquelle la rattache des liens qui sont très anciens, multiséculaires, et qu'à cet égard, le fait que la première décision du Parlement ukrainien après le départ de Yanukovych ait été de remettre en cause l'enseignement du russe a été perçue, pas seulement par les Russes, mais aussi par ces populations russophones, comme une provocation. Et enfin, dernière question que je veux évoquer, c'est quand même la question de l'aide économique, des contreparties de l'aide économique, parce que l'Ukraine est dans une situation économiquement désastreuse, tout le monde le sait. Quand on parle de l'aide européenne que réclame l'Ukraine, il faut voir avec quelle contrepartie cette aide européenne viendra, sera versée à l'Ukraine. Les contreparties seront draconiennes. Après tout, on sait déjà ce qui a été imposé au peuple grec. Donc il ne faut pas avoir une vision idyllique de cette Europe qui va débarquer avec des milliards d'euros sans imaginer que ces milliards d'euros s'accompagneront de conditionnalités comme celles que le FMI impose en général aux pays qu'il aide, ou enfin aide avec tous les guillemets d'usage, et que ces conditionnalités risquent d'être assez redoutables pour la population ukrainienne. Toutes ces questions-là, il n'est pas interdit de les évoquer uniquement parce qu'on est dans cette espèce de bande dessinée où ce sont toujours les gentils occidentaux qui veulent la démocratie, la paix et l'amour, et les méchants russes qui veulent la guerre et la dictature.
Mathilde, boue, littéralement.
Je voudrais préciser peut-être deux choses. Je trouve dommage que cette espèce de guerre des blocs entre les États-Unis, l'Union européenne et la Russie se fasse sur le dos de l'Ukraine. Je veux dire, ayons une politique envers la Russie qui soit cohérente, qui soit ferme et qui soit en même temps celle d'un partenariat, parce que c'est sûr que la Russie, ce n'est pas Poutine. La Russie, ça ne sera pas toujours Poutine et il faut la prendre en compte. C'est un grand État qu'il faut prendre en compte. Donc ce qui m'embête un peu, c'est qu'à chaque fois, ça se joue sur les pays satellites, la Géorgie, l'Ukraine, etc. Donc si on veut avoir une politique ambitieuse qui permettrait à la Russie d'exister, parce que plus qu'elle a le droit d'exister, c'est vrai, ne le faisons pas sur le dos de l'Ukraine en se faisant la voix des revendications des Ukrainiens. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont quand même assez grand pour aussi savoir ce qu'ils ont envie. Et deuxième chose, on parle peu, mais c'est vrai qu'on devrait parler des contreparties qui seront exigées par l'Union européenne en cas d'aide financière. Parlons aussi, dans ce cas-là, des contreparties qui sont exigées par la Russie lorsque la Russie fait un chèque à l'Ukraine.
Absolument.
Voilà, donc quand la Russie fait un prêt de 15 milliards, c'est pas sans contrepartie, notamment sur le maintien de prix du gaz totalement hallucinant. Voilà. En tout cas, la dépendance gazière de l'Ukraine. Donc voilà, à chaque fois, je pense qu'il faut essayer de garder ouverts nos esprits et ne pas tomber dans des espèces de clivages, comme vous dites, bisounours entre l'Est et l'Ouest.
Je vais prendre une noisette.
J'ai doublé.
On est avec Jean-Yves Camus maintenant, avec un papier sur les extrêmes droites mutantes en Europe. Et on est tout de suite attiré par une carte qui peut quand même nous inquiéter, en tous les cas nous renseigner sur l'état de l'extrême droite, des votes extrême droite en Europe. On voit qu'on n'est pas si mal placé, nous, en France, mais qu'on a d'autres pays, la Norvège, le nord de l'Europe,
et des pays dans le centre de l'Europe où l'extrême droite peut atteindre 15% et davantage. Alors là, vous vous efforcez d'abord, Jean-Yves Camus, de redéfinir le mot extrême droite. D'abord, l'extrême droite, c'est un terme fourre-tout.
L'extrême droite, c'est effectivement un terme fourre-tout qui recouvre à la fois des groupuscules qui continuent de se référer à l'idéologie fasciste, voire à une forme de néo-nazisme, et puis des formations qui ont vocation à participer à un gouvernement de coalition. On vient de le voir en Norvège, où le Parti du Progrès est rentré au gouvernement à l'automne dernier, et qui en fait sont des droites différentes, des droites libérales et conservatrices traditionnelles, mais n'en sont pas moins des formations dont le programme ne fait que pousser à son extrémité les idées défendues par les droites de leurs pays respectifs. Donc attention à ce terme, comme attention d'ailleurs à populisme, qui à mon avis est en train de devenir non seulement un grand fourre-tout, mais une manière de tenir le peuple à distance. Parce que lorsqu'on s'inquiète des montées populistes, très souvent, on le fait d'une manière qui consiste à dire « Mais voyez donc ce peuple qui donne ses voix à des démagogues ». C'est un moyen d'éluder un petit peu facilement, à mon sens, le pourquoi de ce vote. Parce qu'il n'y a pas, incontestablement, en Norvège, 23% de fascistes. Il n'y a pas, en France, 18% de fascistes. Il y a véritablement des dysfonctionnements de notre système de démocratie représentative. Il y a les effets de la crise, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc attention, l'extrême droite est un terme qui mute avec le temps. Et le populisme est un terme qui comporte une charge
de mépris,
de mépris vis-à-vis de la volonté populaire qui souvent m'inquiète.
Ça, c'est la grande différence avec la gauche. Parce que quand on entend Marine Le Pen, il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre d'idées qu'elle a empruntées, qu'elle a volées si on veut, mais en tous les cas qui sont bel et bien des idées de la gauche radicale ou de la gauche de gauche, comme on voudra, qui laissent un petit peu... cette gauche, les bras ballants, qui dit mais elle est anticapitaliste, elle est pour la classe ouvrière, elle est pour l'égalité, elle est pour le rapprochement avec Israël, etc. Ça fait quand même beaucoup.
Elle n'est pas anticapitaliste et ses partis ne le sont pas. Ils sont pour un capitalisme national. C'est-à-dire que le capitalisme, si j'ose dire, s'arrête aux frontières. Tant que la structure de l'entreprise, tant que le système bancaire reste entre les mains des nationaux, qu'il ne réponde à aucun diktat de souveraineté extérieure, ça va bien. Sitôt qu'un élément extra-national s'en mêle, que ce soit le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne ou tout simplement le système bancaire américain ou un actionnaire étranger, là subitement le capitalisme ne va plus. Et c'est cela finalement qui fait que d'une part, ces mouvements ne sont pas anticapitalistes au sens où la gauche anticapitaliste l'est. Et l'autre différence fondamentale qui interdit à mon sens de mettre en équivalence, comme certains le font, le Front National et par exemple le Front de Gauche ou le reste de la gauche, c'est effectivement le facteur ethnique. C'est-à-dire que personne à gauche, jusqu'à preuve du contraire, ne défend l'idée selon laquelle il existerait un fond culturel et ethnique immuable qui ferait le français et qui interdirait à un étranger qui en manifeste la volonté et qui répond à un certain nombre de critères de devenir partie intégrante de la nation française. Donc le facteur ethnique est de toute manière essentiel pour différencier des propositions qui, par exemple, quand on les prend dans leur formulation globale, la lutte contre la globalisation libérale, la volonté de revenir au plein emploi, etc., peuvent prêter à une certaine confusion.
Alors, ça fait une trentaine d'années que vous observez cette extrême droite. Et il y a une idée qui revient de façon comme un leitmotiv, c'est les ouvriers votent Le Pen. On a l'histoire du communiste qui se met à voter à l'extrême droite, du cégétiste qui vote pour l'extrême droite. Qu'est-ce que vous dites de ça ?
Première mise au point, toutes les études électorales montrent qu'au moins un tiers des ouvriers, lorsque le général de Gaulle était au pouvoir et l'UNR, l'UDR ou autre sigle l'était aussi, votait à droite. D'ailleurs, il était impossible...
Pour de Gaulle, vous voulez dire ?
Votait à droite, certainement pour le général de Gaulle. Oui, il y avait un coefficient personnel de Gaulle. Mais votait à droite, tout simplement parce que la part des ouvriers dans la population française à l'époque des Trente Glorieuses était telle que la majorité absolue qu'obtenait la droite n'était pas envisageable sans qu'effectivement une partie importante de l'électorat ouvrier vote pour la droite. La deuxième chose, c'est que les ouvriers qui ont voté communiste ne sont pas ceux qui votent aujourd'hui pour le Front National. Parce que cela fait très longtemps que le Parti communiste n'est plus à 20% des voix comme il l'était à la présidentielle de 1969. Donc par un simple effet générationnel, ceux qui votent aujourd'hui en milieu ouvrier pour le Front National sont d'autres ouvriers que ceux qui votaient communistes. Ce sont les enfants ou les petits-enfants des ouvriers qui votaient communistes. Mais il n'est pas évident non plus qu'ils aient exactement la même qualification que leurs parents ou leurs grands-parents, qu'ils travaillent dans les mêmes secteurs. Aujourd'hui, chez les personnes déqualifiées, le vote FN monte considérablement, y compris chez les femmes. Mais il monte également, par exemple, chez les employés de commerce, et notamment chez les femmes employées de commerce, c'est-à-dire chez celles qui sont le plus touchées par la précarité inhérente au type d'emploi qu'elles occupent. Là, ce qu'on appelle le gender gap, c'est-à-dire la différence entre le pourcentage d'hommes et le pourcentage de femmes qui votent pour le Front National, est réduit à zéro.
Alors, même si ce n'est pas dans votre papier, Jean-Yves Camus, je voudrais vous interroger rapidement, puisqu'on est sur l'extrême droite, sur des phénomènes récents qui sont apparus massivement dans la presse, c'est le phénomène Dieudonné et le phénomène Soral. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Le phénomène Dieudonné et le phénomène Soral ne sont pas à négliger parce qu'ils s'adressent, quel que soit le côté délirant du contenu de leur pensée, à des franges de population qui ont été laissés de côté, marginalisés par l'ensemble de l'establishment politique et dont les exigences d'intégration et d'égalité, dès les années 80, ont été politiquement captées, canalisées, transformées, de sorte que ces jeunes d'origine immigrée, notamment, qui se battaient au début des années 80 pour une exigence d'égalité, ne se retrouvent pas dans quelque chose qu'est l'antiracisme. C'est pas l'antiracisme qu'ils voulaient au moment de la création de la marche des beurs. C'est l'égalité au quotidien, dans leur quartier. Et l'on s'aperçoit que là où Dieudonné et Alain Soral ont effectivement un écho, c'est dans ces secteurs où aujourd'hui, d'abord l'enclavement territorial est énorme, où le chômage de ces populations est énorme et où la déconnexion entre l'ensemble de la classe politique et les citoyens est tout aussi important. Autrement dit, là où il n'y a même plus de volonté d'aller voter et là où il n'est même plus question de s'engager en politique, le discours d'Alain Soral et de Dieudonné est susceptible de porter.
Une dernière chose, Jean-Yves Camus, la chute de votre papier, vous interpellez un peu la gauche européenne en disant « vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'extrême droite ».
Non, je crois qu'effectivement, la gauche ne comprend pas ce qui se passe à l'extrême droite ou à droite de la droite.
Elle ne le comprend. Ça fait très longtemps, ça, quand même, que la gauche ou la gauche radicale se contente de se faire peur, d'invoquer une peste noire qui arrive.
Oui, effectivement, c'est peut-être depuis le moment où elle a perdu, finalement, l'hégémonie culturelle en gagnant la majorité politique. Et ça, c'est effectivement le risque qui guette toute famille politique et idéologique qui, à un moment donné, passe de l'opposition au pouvoir. C'est de n'être que gestionnaire, de ne plus être présente sur le terrain du combat des idées. Or, à un moment donné, on se retrouve effectivement face à un adversaire qui, lui, a conscience que sa marginalité, sa minorité, l'oblige à fourbir ses armes idéologiques. Lorsque, à gauche, on se contente tout simplement de gérer le présent. C'est une situation qui risque d'être fatale, d'ailleurs, hein, aux partis de gauche qui détiennent actuellement le pouvoir en Europe.
La suite dans le monde diplomatique de ce mois-ci, dont un papier d'Hernando Calvo Ospina sur Chevron. En Équateur, la lutte de ce petit État d'Amérique du Sud contre Chevron, c'est un roman monstrueux. les débats du diplôme. Donc, chaque mois, on se retrouve avec cette équipe. Là, c'était Serge Halimi, Mathilde Gouanec, Jean-Yves Camus. Merci à Anne Calais-Chavanel. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a la page Facebook de là-bas si j'y suis, où vous pouvez aller faire un petit tour à la technique aujourd'hui. Bertrand Durand et Michel Thomas. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Tout de suite, je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici?
C'est un centre sportif. Il y a tout, quoi. Conférences.
Ah, il y a des conférences au gymnase?
Oui.
Ah bon, bah, je vais aller faire un tour, alors.
Allez-y.
Et je vais avoir votre prénom ?
Fred.
Merci Fred et bonjour à tous et bienvenue au centre sportif Jean Dame. Et nous allons rentrer dans la salle de conférence.
Allez-y, je vous en prie.
Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici ?
Ah bah ici, on attend la conférence de Djemila Benhabib. Hein.
Mais c'est Djemila qui est là-bas ?
C'est Djemila qui est là, voilà. Donc elle peut peut-être vous renseigner mieux que moi.
Ah, et vous voilà. Êtes qui ?
Et moi, je suis la maman de Djemila.
Ah, d'accord.
Voilà.
La famille est là.
Toute la famille est là, oui.
Bon, bah, écoutez, et votre prénom ?
Et mon prénom, c'est Katie.
Bon, bah, merci, Katie, et je vais aller voir Djemila.
Bonjour.
Bonjour, Djemila. Alors, il paraît qu'il y a une soirée de solidarité.
Ben oui.
Pour vous ?
Exact.
Quel est le problème ?
Bah, c'est une poursuite en diffamation à la suite d'une publication qui est parue sur mon blog du Journal de Montréal que j'avais à l'époque, qui concernait une école confessionnelle musulmane. Et l'école me poursuit pour les propos que j'ai tenus. Donc,
qu'est-ce que vous avez dit sur cette école ?
Bah, j'ai dit, je l'ai critiqué d'une façon assez acerbe, compte tenu du fait que dans le programme pédagogique de cette école, il y avait des versets coraniques qui incitaient à la haine, qui détaillaient point par point le châtiment qu'allaient subir ceux qui ne croyaient pas à l'insurrection et les non-croyants et ainsi de suite. On y parlait également des houris, enfin bref.
Pourquoi les houris ?
C'est ces femmes vierges que les bons musulmans reçoivent en offrande lorsqu'ils suivent le bon chemin. Voilà, donc on enseignait en fait ce type de choses à des enfants dans une école primaire.
Une école publique ou privée ?
Une école publique, mais néanmoins financée à raison de 400 000 dollars par an. Donc il y a des fonds publics tout de même. Une école où le port du voile islamique est aussi une obligation pour les petites filles. Et donc on peut s'interroger sur le contenu pédagogique en fait des programmes, sur l'état d'esprit aussi qui existe dans cette école. Est-ce que ce type d'école prépare les citoyens de demain ou bien construisent quasiment des ghettos et des gens finalement de seconde zone, des citoyens de seconde zone qui ne vont pas exercer leur citoyenneté à part entière, en ce sens qu'ils ne vont pas véhiculer les principes de la démocratie, l'égalité, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Voilà, donc tout ça est pour moi inquiétant.
Alors ça, cette école, elle est à Montréal, c'est ça ?
Oui, cette école, elle est à Montréal, exactement. Et c'est pas n'importe quelle école, puisque c'est la première école qui existe avec un tel mandat. Donc, je pense que son existence remonte aux années 84 déjà. Donc, ça fait un bout, quoi. Ça fait un bail.
Et est-ce que vous avez entendu parler d'écoles de ce genre-là en France ?
Oui, Je sais qu'en France, il y a des écoles confessionnelles, donc catholiques, juives et musulmanes. Je pense qu'il y en a deux. Mais vous savez, c'est assez différent. L'organisation des écoles confessionnelles au Québec est différente de l'organisation des écoles ici, compte tenu du fait que les enseignants, par exemple, on ne sait pas par quel cheminement académique ils sont passés pour pouvoir enseigner dans ces écoles confessionnelles. Donc finalement, n'importe qui peut se trouver donc à enseigner dans ces écoles. On nous dit que les programmes sont suivis, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne suivent pas le programme, ou bien qui disent qu'ils suivent le programme d'une façon hypocrite, mais on sent qu'il y a donc des messages parallèles qui sont véhiculés. Donc tout ceci, je pense, doit être discuté sur la place publique, sur la scène publique. Je pense que c'est un débat de société qui mérite d'être tenu. Or, je me rends compte que cet exercice-là d'information est quelque peu périlleux, puisque le journal donc, qui a publié donc, mon blog n'est pas poursuivi, la radio qui a diffusé donc, cette entrevue n'est pas poursuivie, et je me trouve finalement la seule à être poursuivie dans cette affaire, ce qui fait dire à de nombreux concitoyens que c'est une poursuite bâillon, ce qu'on appelle au Québec une poursuite bâillon, c'est-à-dire qu'on poursuit finalement le maillon le plus faible de la chaîne, celui qui a le moins de possibilités de faire valoir ses droits. Et donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui. Vous savez que moi, je véhicule une conception républicaine de ce qu'est, ce que doit être l'éducation. Je suis attachée à la laïcité, à l'égalité. Et ma foi, mon message résonne fortement en France, dans certains milieux. Et j'ai trouvé ici des appuis considérables.
Djemila Benhamid, vous avez écrit donc, Ma vie à contre-courant et Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. Si on veut en savoir plus sur votre combat, eh ben, on tape Je soutiens Djemila, voilà. Et on en saura plus.
Un temps pochon, c'est terminé aujourd'hui et on se retrouve demain.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Dominique Delarroy.
La contre-attaque de Jean-François Copé, accusé par Le Point d'avoir favorisé des proches avec l'argent de l'UMP. Le président de l'UMP a promis de dévoiler les comptes de son parti en échange d'une même transparence des autres partis et des médias. Avec des mots vitriols, il a dénoncé certains organes de presse aux méthodes dignes de l'Inquisition et son lynchage public. Alain Juppé, ancien Premier ministre et l'un des fondateurs de l'UMP, trouve que mettre en cause l'ensemble des médias, c'est toujours forcément un peu injuste. François Fillon, ancien rival de Jean-François Copé à la présidence de l'UMP, lui, indique que ses propositions devraient être discutées après les municipales. Au PS, enfin, on raille un patron de l'UMP qui avait, en septembre dernier, voté contre la législation sur la transparence de la vie publique élaborée après le scandale Cahuzac. L'Ukraine, la Russie juge inadmissible les menaces du secrétaire d'État américain John Kerry, pour qui elle risque de perdre son siège au G8 après l'invasion de la Crimée. La Russie, qui n'est pas très favorable à l'envoi d'observateurs de l'OSCE en Ukraine, une mission qui pourrait pourtant partir dès ce soir. L'Allemagne mise pour sa part sur le dialogue en exhortant Moscou à abandonner la logique des mouvements de troupes. Et conséquence de ces tensions autour de l'Ukraine, les investisseurs sont inquiets. À New York, les cours du pétrole ont monté à leur plus haut niveau depuis plus de 5 mois. L'or, valeur refuge, a aussi atteint son plus haut niveau depuis le 30 octobre dernier à plus de 1350 dollars l'once. Dans le même temps, les marchés mondiaux et les principales bourses européennes ont fortement reculé, mais le record revient à la bourse de Moscou qui plonge de près de 11% à la clôture. Une partie des étudiants infirmiers redoutent de se retrouver à partir d'aujourd'hui sans stage. Les cliniques privées ont en effet décidé de ne plus les accueillir. Elles protestent ainsi contre la décision du gouvernement de baisser leurs tarifs. Les établissements privés accueillent chaque année 35 000 étudiants infirmiers sur un total de 90 000. Les stages, qui représentent la moitié du temps de formation, sont obligatoires. Indignés d'être traités comme une monnaie d'échange, les futurs infirmiers ont décidé de manifester demain dans plusieurs villes de France. Le groupe nucléaire Areva ne souhaite plus s'engager sujet sur une date de mise en opération du réacteur nucléaire EPR en Finlande, un réacteur qui est en construction depuis 2005 et dont le démarrage commercial prévu en 2009 a été repoussé à 2016. Ce chantier colossal connaît d'importants retards et des surcoûts dont Areva, associé avec l'industriel allemand Siemens et TVO, l'électricien finlandais, se rejette la responsabilité. Un homme de 21 ans grièvement blessé hier à Gonesse dans le Val d'Oise, des coups de feu ont été tirés sur le véhicule dans lequel il se trouvait dans le quartier de la Fauconnière. Le jeune homme est connu des services de police. Des rivalités opposent ce quartier à celui des Marronniers, mais aucune piste n'est pour le moment privilégiée.
France Inter aime le cinéma.
Les Césars ont récompensé les films France Inter.
Quelle soirée, nom de bleu, mais merci infiniment. Mais...
César du meilleur acteur pour Guillaume Gallienne.
Mais aussi de la meilleure adaptation pour Les Garçons et Guillaume à table.
Merci maman.
Meilleur montage, meilleur premier film, non, meilleur film.
Je suis extrêmement ému, mais...
Meilleur espoir féminin pour Adèle Exarchopoulos dans La vie d'Adèle.
Ce César, je te le dois.
D'Abdelatif Kechiche.
Adèle.
Meilleure musique originale et meilleur son pour Michael Koulas.
France Inter.
La radio du cinéma.
France Inter.
La voix est libre.
Et bientôt 16h04, c'est à vous Frédéric Leudéron, bonjour.
Bonjour Dominique Delaroy, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui le très grand pianiste Nikolaï Louganski. Bonjour Nikolaï.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes déjà venu ici et on vous retrouve parce qu'il y a des nouveautés, notamment un disque Chopin, il y a aussi un disque Grieg Prokofiev, mais on va se concentrer sur Chopin. Vous avez écrit que Chopin a écrit ses études de manière tout à fait extraordinaire, que à son époque, peut-être que les gens ne comprenaient pas. C'est une musique très importante, peut-être l'œuvre la plus importante. Il n'existe pas d'œuvre plus importante que les études de Chopin. Et vous avez dit que Chopin, peut-être, avait du mal, des difficultés à jouer, parce qu'il n'avait pas les mains aussi grandes que vous, par exemple.
Je ne sais pas exactement, j'ai juste...
Imaginez.
Je pense, comment ils peuvent jouer ça? Je sais seulement que... Liszt a joué les études de Chopin et Chopin était grand admirateur du pianisme de Liszt et je pense que c'était grande interprétation, mais comment lui-même, comment Chopin peut jouer les études, c'est vraiment une énigme, je ne peux pas comprendre.
Par passion, quand on veut, on peut, c'est ce que vous dites aussi dans cette interview que j'ai sous les yeux, d'une belle revue de piano, vous dites, voilà, quand il y a une envie, quand on veut se dépasser, vraiment, on peut y arriver. Mais il y a une étude qui est très sportive, c'est la première en do majeur, une des plus difficiles, c'est vrai ça? Les pianistes disent ça en général.
Oui. Presque chaque étude est comme ça.
Presque chaque étude est divisée. Bon, on y va carrément, allez.
Thank you.
bel exploit, première étude de Frédéric Chopin par Nikolaï Louganski. Et Nikolaï, maintenant, la 24e que j'ai vraiment depuis longtemps dans mon cœur, parce que c'est une étude presque comme un son de violoncelle, on a l'impression que ça chante. Alors, dans le disque de concerto de Chopin qu'on va entendre tout à l'heure, il y a les deux, il y a la virtuosité et puis il y a le chant. Vous vous souvenez que Stravinsky a dit que le piano était un instrument à percussion uniquement. Et ça vous fait sourire, je vois. Parce que...
Oui. Pour Stravinsky, probablement oui, mais
c'est une provocation, pas pour Chopin. Une provocation, voilà, Chopin, c'est ça. Oui.
Certainement.
Pas pour Chopin. Et là, donc, comment on fait pour donner cette impression de chant? Il y a la pédale, bien sûr, peut-être. Il y a...
Première chose, si c'est chant dans votre tête et oui. Dans votre
cœur
et âme, puis ça peut chanter aussi dans le clavier, parce qu'on ne peut pas organiser les méthodes, comment on fait ça. D'abord, ça doit être à l'intérieur.
Un sentiment. Oui, mais oui. Quand même, vous venez de la très grande école russe, donc Neuhaus, Richter, Gilels, Nikolaïeva, etc. On parle d'une tradition russe quand même, d'une école de piano plutôt large, plutôt quelque chose de puissant, par rapport à l'école française qui est plus légère, plus transparent, élégante, oui, c'est le mot qu'on prend souvent, effectivement.
Mais je pense, le chant, peut-être avec la grande voix, mais chant, c'était toujours un des plus importante base de l'école russe.
Une des bases. Ben, on va entendre chanter, ben, voilà, l'école russe à travers vous, enfin votre talent particulier.